Et la revue de presse internationale avec vous ce matin, Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour Hervé.
Et quelques pays ont pu fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre quasi normalement.
Oui, notamment en Asie qui a fêté cette nouvelle année quelques heures avant nous. L'AFP relaie des images de joie et même de liesse collective qui commencent sérieusement à nous manquer, comme ce feu d'artifice gigantesque à Taipei, ce grand concert pop en plein air à Bangkok, ou encore ces images moins festives mais non moins impressionnantes d'une foule immense, silencieuse et masquée à Pyongyang en Corée du Nord pendant la levée des couleurs. Et puis certains y verront un message d'espoir pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Il y a ces images venues de Chine d'une foule lançant des ballons dans les airs à Wuhan, la ville où il y a exactement un an, un mystérieux virus commençait à faire parler de lui. En revanche, deux salles, deux ambiances. Les photos relayées par CNN nous montrent un Londres désert, seulement troublé par le martèlement des sabots des chevaux de la police montée. Idem pour Times Square où les New Yorkais ont dû ouvrir leur télévision pour fêter le passage à 2021 avec, encore, Gloria Gaynor entonnant pour la 6000e fois son fameux tube. I will survive, je survivrai, particulièrement pertinent cette année, vous en conviendrez. À Rome, c'est également depuis leur canapé que les citoyens ont pu assister ou non aux sons et lumières de 2 heures organisées dans un Circus Maximus vide. Et puis enfin à Dubaï, des petits carrés jaunes ont été tracés sur le sol à la peinture pour que chacun puisse regarder le feu d'artifice avec son mètre carré, rien que pour lui. Mais je ne vous cache pas que j'ai vu quelques pieds mordre des lignes.
Vous avez l'œil, Thomas. Ce 1er janvier, c'est également l'heure des bilans et tous ne sont pas négatifs.
Oui, avec notamment The Independent en Angleterre qui préfère voir le Covid à moitié plein et consacre un article aux droits des animaux. Car si l'année écoulée a été rude pour l'être humain, elle a été bénéfique pour bon nombre d'espèces selon le journal qui félicite chaleureusement le législateur français pour avoir interdit l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques ambulants et pour épargner aux orques et autres dauphins une vie de solitude dans les parcs aquatiques. Le quotidien qui applaudit également Sephora et d'autres grandes marques de beauté qui ont interdit les cils de vison mais aussi plusieurs marques de vêtements britanniques qui ont promis de cesser d'utiliser la polaire d'alpaga. Dans le rayon des bonnes nouvelles encore, selon The Independent, cette décision de justice inédite en Écosse, où un éleveur de moutons a été reconnu coupable de cruauté envers les animaux après qu'un inquiéteur l'ait filmé en train de donner des coups de poing et de pied au visage de ses bêtes pendant la tonte. Enfin, le journal tire son chapeau à l'Égypte, où les autorités commencent à interdire non seulement les voitures à cheval, mais aussi les promenades à dos de chameau pour aller admirer les pyramides de Gizeh et autres sites archéologiques sans ombre et parfois sans eau. Un ensemble de décisions qui, selon l'auteur, reflètent le besoin urgent pour l'humain de redéfinir sa relation avec les autres espèces loin de la domination et vers le respect.
Et le Washington Post, contrairement au Time Magazine, affirme haut et fort que 2020 n'est pas la pire année de l'histoire.
Le quotidien américain a même convoqué un panel d'historiens pour donner un classement des pires années de l'histoire. Et bien 2020 finit à la 6e place, bien loin de la médaille d'or. La récompense suprême revient à 1348 qui termine loin devant toutes ses concurrentes. C'est l'année de l'apogée de la peste noire qui fait alors 200 millions de morts sur une planète bien moins peuplée à l'époque, quand le coronavirus a tué pour sa part 1,8 million de personnes en 2020. 1944 pour les raisons que l'on connaît fini deuxième. Médaille de bronze pour 1816, selon le journal. 1816 dite l'année sans été, avec un épisode un peu moins connu, celui de l'éruption du volcan Tambora en Indonésie qui a caché le soleil, réduisant à néant de nombreuses récoltes et affamant in fine plusieurs millions de personnes. Alors ce classement, il vaut ce qu'il vaut, chacun l'appréciera à sa manière. Classer les morts et les souffrances étant évidemment d'un intérêt limité, si ce n'est celui de prendre quelques reculs sur l'année écoulée, aussi éprouvante fut-elle, d'autant que selon ce panel d'historiens, il est bien trop tôt pour véritablement comprendre et juger l'année qui vient de s'écouler à l'échelle de l'histoire avec un grand H.
Et enfin Thomas, El País fait un focus sur les grands gagnants de cette année 2020.
Ah oui, et selon le quotidien espagnol, ces grands gagnants, ce sont les plus riches, plus précisément les 20 personnes les plus riches de cette planète. En effet, seules 3 d'entre elles terminent 2020 moins fortunées qu'au début de l'année, au terme de 12 mois socialement et économiquement très violents. Ensemble, les 20 plus grandes fortunes terminent l'année avec un capital commun de près de 1500 milliards d'euros, avec 2 Français dans ce top 20, Bernard Arnault, 4e au pied du podium, et Françoise Bettencourt-Meyers. Tout en haut de ce classement se trouve encore Jeff Bezos, patron d'Amazon, incontestable grand gagnant des confinements à travers le monde et dont la fortune personnelle, notamment en actions, a augmenté de près de 70% depuis janvier dernier. Et enfin, le prix de la meilleure progression, le maillot du meilleur grimpeur, revient au patron de Tesla, Elon Musk, dont la fortune a augmenté de près de 500% en un an. Lui qui ne faisait pas partie de ce club des 20 est directement passé en deuxième position. À ce rythme, en 2024, Elon Musk n'aura pas seulement posé un pied sur Mars, il l'aura aussi probablement acheté.
Merci beaucoup Thomas Larabi. Votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.